Alors, sans plus attendre, je vais commencer cette présentation. Peut-être juste avant, un bref rappel historique sur la politique du logement à la ville de Lausanne. Dans un premier temps, c'est vrai que la ville a beaucoup développé les aspects de logements sociaux, par un parc de logements subventionnés assez conséquent, par aussi un contrôle, je dirais, du coût des loyers via la LDTR, etc. En développant aussi avant... je dirais la nouvelle réglementation cantonale, une aide au logement qui permet d'aider financièrement les revenus modestes à se payer leur loyer. Et puis, suite à la première législature du syndic Brella, la ville de Lausanne a lancé, je dirais, une grande démarche participative sous le nom de Quartier 21, en particulier pilotée par Mme Chapuis, qui est avec nous dans l'auditoire, et qui finalement, elle a débuté, je dirais, en 2002, et après 2 ans, en particulier sur la thématique du logement, il y a 3 souhaits qui ont été clairement exprimés par les Lausannois, à savoir la création de 3000 logements. Il faut savoir qu'on a un taux de vacance à l'heure actuelle qui est à peu près 0,3%, donc très peu d'offres de nouveaux logements. Éviter les quartiers ghettos, ça je dirais que c'était peut-être en écho aux problématiques de banlieue française à l'époque. Et puis avec le souhait dissimulé derrière d'éviter... en tout cas, je dirais plutôt de favoriser la mixité sociale, la mixité fonctionnelle. Et puis, le troisième souhait était effectivement de développer des quartiers qui soient respectueux de l'environnement. Alors, partant de ces 3 souhaits, la municipalité a proposé un préavis qui s'appelle le préavis 3000 logements, qui a été adopté, si ma mémoire est bonne, en février 2006, et qui vise à répondre en même temps à ces 3 souhaits. Comment ce préavis s'est construit? Dans un premier temps, la ville a fait à répertorier, je dirais, l'ensemble des parcelles qui étaient à disposition et qui lui appartenaient et qui offraient des possibilités de construction assez rapides, à savoir dès l'entrée en vigueur du PGA, le plan global d'affectation, donc le règlement communal, je dirais, de construction. Ce préavis, une fois adopté, la municipalité a souhaité aussi, du point de vue opérationnel, se doter d'une unité au sein du service du logement qui aurait à charge de mener à bien ce projet. Et puis, parallèlement à ça, de développer une méthode dont je vais vous présenter tout à l'heure le fonctionnement, qui permet de définir finalement le développement durable à l'échelle du logement. Et puis, la deuxième partie de ma présentation, elle s'axera surtout sur l'éco-quartier qui est prévu dans le projet Métamorphose. Je vous présenterai brièvement le concept et en particulier les 13 principes de développement durable qui sont spécifiés dans ce préavis. Alors, ce projet 3000 logements, ça fait maintenant donc 2 ans et demi qu'il a été initié, en particulier avec 2 projets de construction, un à Praroman, à Verchères-les-Blancs, d'à peu près 60 logements destinés aux seniors, et puis un deuxième à Victor Ruffy, dont le fondement était principalement d'utiliser de manière massive le bois. Je vous présenterai tout à l'heure de façon un peu plus détaillée cet exemple-ci. Et puis... évaluer dans un premier temps la durabilité d'un projet et puis surtout pour optimiser la durabilité de ces projets, la ville de Lausanne s'est dotée d'une méthode qui s'appelle la méthode SMEO, qui a quatre composantes, donc sol, matériaux, énergie, eau. L'idée, c'est un peu de rassembler les ingrédients principaux qui sont nécessaires à la construction d'un logement durable. Et puis cette méthode, elle permet en particulier au stade des concours d'architecture d'évaluer les projets et puis ensuite, durant tout le suivi des projets, d'aider les mandataires à optimiser les caractéristiques des logements ou des habitations. De façon générale, sur ce projet 3000 logements, à chaque fois qu'un projet est assez important, on essaye systématiquement de lancer un concours d'architecture, de façon à là aussi s'offrir le maximum de chances, je dirais, de choisir un projet qui a une forte potentialité de respect environnemental. Cette méthode, en fait, elle se compose de 7 critères principaux. L'idée principale de SMEO, c'est effectivement de réaliser une analyse de cycle de vie du bâtiment, donc c'est-à-dire d'étudier son impact environnemental depuis le berceau jusqu'à la tombe. Et au travers ça, effectivement, on a édicté un certain nombre de critères, vous voyez sur l'écran, économie du sol, concept constructif, choix des matériaux, gestion du chantier, qui, eux, vont surtout traiter, je dirais, du projet depuis le terrain nu, jusqu'à la phase de réalisation. 2 critères qui eux vont gérer plutôt les aspects moyens, enfin, à moyen terme, en particulier liés à l'exploitation du bâtiment, la rénovation, l'entretien. Et puis enfin, le dernier critère qui a une visée un peu plus lointaine et qui est la démolition. Et là, on va aussi, je dirais, par le choix de soit de mode constructif adapté, soit de matériaux qui sont dissociables, favoriser une déconstruction plutôt qu'une démolition. Alors pour éviter d'être dans le conceptuel trop longtemps, je vais vous présenter cette méthode en fait au travers d'un exemple, qui est un des premiers projets 3000 logements, qui est situé à Victor Ruffy. Le chantier a commencé maintenant en juillet. Ça a été assez long entre la phase de concours et puis le premier coup de pioche. Il s'est passé à peu près 3 ans. Il y a eu des oppositions, il y a eu un certain nombre de complications. Le fondement du règlement du concours, c'était effectivement d'utiliser en particulier du bois de manière massive en tant que matériau de construction. Vous savez que Lausanne, effectivement, est propriétaire d'un certain nombre d'hectares de forêt. C'était, je dirais, l'objectif d'utiliser un matériau local et renouvelable sur ce projet-là. Alors, ce projet, ce sont 4 bâtiments. On ne le voit pas sur cette photo, mais effectivement, les façades sont en ossature bois. Et puis, le système constructif, c'est un noyau porteur béton sur lequel viennent s'ancrer des dalles massives en bois qui viennent, en fait, de la ville de Lausanne, de la propriété forestière de la ville de Lausanne, et alentour, en fait, c'est la coopérative La Forestière qui va alimenter ces 1500 m3 de bois pour la réalisation de ces 4 immeubles. 64 logements. Au cours du développement du projet, le label Minergie Eco est sorti. Donc le maître d'ouvrage, à savoir Cité Derrière, une coopérative d'intérêt public, a décidé de jouer le jeu et de tenter de réaliser ce projet-là selon ce label-ci. Et puis le résultat, on va le voir de façon un petit peu plus détaillée par la suite, c'est effectivement une consommation énergétique assez faible, 35 kWh par mètre carré et par an, due à la consommation d'énergie grise des matériaux. Donc l'énergie grise, c'est effectivement l'énergie nécessaire à la conception et au transport des matériaux. Et puis 28 kWh par mètre carré par an pour tout ce qui est chauffage, eau chaude et ventilation. Première réflexion, c'est vrai qu'on se rencontre peut-être contre des idées reçues ou des a priori que finalement aujourd'hui l'énergie grise représente une part plus importante dans le bilan énergétique d'un bâtiment que l'énergie qu'on va consommer durant les 80 ans d'exploitation du bâtiment. Ça, c'est évidemment une donnée un peu nouvelle due, je dirais, à l'augmentation de la qualité des enveloppes des bâtiments. Moins on consomme, dans ce cas-là, on est effectivement au standard Minergie, moins on consomme à l'exploitation et plus la part énergie grise prend une place importante. Alors, je dirais, pour développer ces projets et puis les évaluer aussi en stade concours, on fait appel à des outils métiers, en particulier des simulations dynamiques thermiques qui permettent de gérer en particulier les aspects de consommation de chaleur, mais aussi et surtout de confort dans le bâtiment. Au plus, on va obtenir des enveloppes performantes et au plus, on va avoir des risques de surchauffe l'été. Donc, sans ce genre de simulation, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'étudier le comportement in fine des bâtiments. Et puis le deuxième aspect, qui effectivement aujourd'hui est, le temps que ça s'ouvre, qui effectivement aujourd'hui est assez déterminant, c'est les aspects énergie grise. Là, sur ce projet, on a effectivement effectué trois comparatifs entre le projet tel qu'il va être réalisé et puis d'autres variantes de projet. Vous avez en fait sur la gauche de l'écran une variante, je dirais, classique, béton, polyuréthane, et puis qui respecte uniquement la SIA telle qu'elle existait il y a encore un an, donc la norme thermique. Et puis on voit effectivement l'étendue des consommations, et ce par poste. Les couleurs jaunes, orangées sont effectivement les consommations d'énergie dues aux matériaux. Et puis ensuite, dans les couleurs roses, vous avez les besoins de chaleur, et puis les couleurs bleues représentent les besoins en électricité, que ce soit pour l'éclairage ou les équipements, réfrigérateurs, etc. Et puis, pendant le développement du projet, il y a une nouvelle loi sur l'énergie qui a été adoptée sur le canton de Vaud, qui elle, renforce un petit peu les exigences en termes d'enveloppe, de qualité d'enveloppe, mais également en termes, je dirais, de couverture d'énergie renouvelable pour les besoins d'eau chaude sanitaire. Et puis, au fur et à mesure qu'on va vers un label, je dirais, exigeant du point de vue thermique, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, on a tendance à augmenter la consommation d'énergie grise. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre en œuvre davantage de techniques, des épaisseurs d'isolation supérieures, du triple vitrage éventuellement. Donc tout l'enjeu du label Minergie Éco sur ce projet-là était de réussir à économiser l'exploitation tout en ne dégradant pas le bilan énergie grise à la construction. Alors sur ce projet-là, on voit effectivement l'intérêt, en tout cas, du bois. Effectivement, ça nous a permis de réduire le bilan énergie grise d'à peu près 25%. La chaleur par la technique Minergie, l'isolation qui va jusqu'à 30 cm sur ce projet-là, on l'a réduit d'à peu près à un facteur 75%. Et puis enfin, l'électricité, je dirais des réductions uniquement dues à l'optimisation de l'éclairage naturel. On a mis en œuvre des fenêtres avec des cadres très très fins de façon à augmenter la pénétration de la lumière, ce genre de choses. Ou alors dans les buanderies collectives, des machines à laver qui acceptent directement l'eau chaude en entrée plutôt que de solliciter la résistance électrique. Un certain nombre de petites solutions, mais qui à la fin effectivement font une sacrée différence. Alors, on a souvent effectivement regardé les choses uniquement du point de vue énergétique. Aujourd'hui, effectivement, il y a un autre enjeu qui est le réchauffement climatique. Et là, c'est aussi intéressant de comparer les mêmes consommations, les mêmes postes, mais sous l'angle des gaz à effet de serre et sous l'angle du réchauffement climatique. Et on se rend compte là encore que si tout à l'heure l'énergie grise représentait à peu près 50% du bilan et puis l'énergie d'exploitation les 50 autres, du point de vue du CO2, ça se déséquilibre encore un petit peu plus, et d'où l'intérêt effectivement de choisir vraiment des matériaux qui soient adéquats si on veut vraiment avoir une efficacité contre le réchauffement climatique. Après, j'arrêterai avec les graphes, rassurez-vous. Je voulais juste par ce graphique-là montrer peut-être un intérêt caché de l'utilisation du bois. Vous avez en fait ici les consommations cumulées de chaleur sur toute la phase de vie du bâtiment. Et puis, sur ce projet, on a mis en œuvre à peu près 1500 m3 de bois. Donc, c'est du bois non traité, coupé, ce sont des planches brutes. Et celles-ci, comme vous le savez tous, elles ont une capacité de stockage du CO2. Pour croître, elles ont stocké du CO2, c'est à peu près par mètre cube de bois l'équivalent de 800 kg de CO2 stocké. Donc, tout se passe comme si, du point de vue du bilan global, on partait avec un capital d'émissions CO2 négatif. C'est un peu pour ça qu'il y a effectivement ce point d'inflexion qui se passe en 2048. Le stock de CO2 compris dans les dalles bois correspond à peu près à 40 années de chauffage. Et puis, une fois qu'on a, je dirais, fait ces bilans-là, il reste un certain nombre d'autres choses qui relèvent du développement durable, la flexibilité, la santé, le confort, etc. Des choses un peu plus qualitatives. Et au travers de cette méthode SMEO, on a tous ces critères, donc les 7 critères dont je parlais tout à l'heure, qui sont répertoriés, un certain nombre de préconisations qui sont mises en face de chacun de ces critères et qui permettent d'évaluer en particulier les aspects qualitatifs du développement durable dans le bâtiment. Typiquement, sur ce projet-là, un avantage aussi indirect de l'utilisation du bois était qu'on s'affranchissait complètement de murs porteurs à l'intérieur des surfaces habitables, et donc ce qui offre une capacité de flexibilité assez appréciable. On peut facilement, sans remettre en cause la structure porteuse et sans occasionner des coûts importants de transformation, rassembler deux appartements, changer le rez-de-chaussée d'affectation, etc. Alors si on fait un bilan, je dirais un état des lieux de l'évolution du projet 3000 logements aujourd'hui, on a à peu près effectivement 700 logements qui sont planifiés, j'entends par là qui ont déjà obtenu le permis de construire et dont le chantier a soit déjà commencé, soit va commencer d'ici la fin de l'année. Ça représente à peu près 85 000 m² de surface brute de plancher. Et puis, juste pour information, on a mis une estimation des consommations d'énergie primaire pour la chaleur, 25 kWh, quand Minergie en demande à peu près 38 aujourd'hui. Les émissions de gaz à effet de serre, l'étiquette display, donc l'étiquette énergie, classe les bâtiments A, donc la meilleure performance selon les émissions de CO2 lorsqu'ils sont inférieurs à 10 kg par mètre carré par an. Ici, sur l'ensemble des projets, et je dirais grâce en particulier au réseau de chaleur à distance de la ville, on a des émissions bien moindres, puisqu'on est à peu près à 4 kg par mètre carré par an. Si on extrapole sur les 30 années durant lesquelles ne vont pas se passer de grosses rénovations, ça représente une économie de 23 000 tonnes de CO2. Deuxième partie de la présentation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du projet puisque M. Kolb le fera demain mieux que moi. Ce préavis métamorphose, il y a finalement quatre grands axes. Le premier, c'est une démarche participative qui a commencé, le premier atelier s'est tenu la semaine dernière et qui vise à inviter les Lausannois à réfléchir sur ce préavis, sur ce projet, à essayer de co-concevoir, je dirais, avec les autorités et l'administration, l'éco-quartier. Deuxième volet, des équipements sportifs. Troisième axe, un axe de transport qui permettra, je dirais, de relier le centre-ville avec la Blécherette et donc l'éco-quartier en prévision. Et puis le quatrième axe, un éco-quartier à la Blécherette ou à la Pontaise. Juste pour vous situer, effectivement, on a sur ce schéma l'ensemble des périmètres du préavis métamorphose. On n'a pas le pointeur. Hein. Et donc le périmètre de l'éco-quartier qu'on voit en haut, qui est la partie inférieure du périmètre rouge, là où effectivement se situe à l'heure actuelle le stade olympique, et puis l'ensemble des terrains de foot en terre. Alors avant de rentrer dans les détails, on peut déjà se poser une question, pourquoi construire un nouveau quartier, et puis pourquoi le faire durable ce quartier ? La première raison, c'est effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, un taux de vacances qui est assez faible sur Lausanne, 0,3%. Et puis, selon les prévisions du SCRIS, on a effectivement à faire face à une montée en puissance, je dirais, de l'arc lémanique dans son ensemble, ce qui pour Lausanne représente à peu près plus 30 000 habitants d'ici 2030. Et puis la deuxième pression qui pousse à faire en sorte que ce quartier soit durable, ou en tout cas de façon inévitable, respectueux de l'environnement, c'est effectivement la pression environnementale et puis le problème du réchauffement climatique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'enjeu pour la ville, c'est effectivement aussi un enjeu d'attractivité et puis un enjeu de dynamisation de l'économie et de la recherche locale. Voilà, de façon peut-être un peu plus claire, le périmètre de l'éco-quartier. Vous savez effectivement qu'il y a une initiative populaire qui a été déposée pour éviter la destruction du stade, donc qui, sauf erreur, sera votée en septembre de l'année prochaine. D'ici là, effectivement, la démarche participative continue. L'idée de cette démarche participative, c'est en particulier d'interroger les Lausannois de façon à mettre un certain nombre de leurs idées dans le concours du règlement d'urbanisme. Et puis on s'adaptera, je dirais, selon l'issue de l'initiative populaire sur le périmètre de l'éco-quartier final. Je vous ai présenté ici de façon synthétique les 13 principes de développement durable qui, je dirais, vont dicter la ligne directrice de conception de l'éco-quartier. Je les ai volontairement divisés en deux parties. Il y a une partie comme vous, celle que vous avez à l'écran, qui est plus liée à l'environnement, où là, typiquement, la ville a une obligation de résultat, quelque part, et puis les aspects socio-économiques, que je vous présenterai après, où là, on a plus une obligation de moyens, et cette différence, elle est de taille, parce que la qualité de vie ou le bonheur, effectivement, ça s'impose pas d'office sur des plans, c'est quelque chose qui se crée au jour le jour, une fois le quartier construit. Vu qu'on a un peu pris par le temps, de façon synthétique, l'idée sur les aspects environnementaux, c'est... On a tous entendu parler du concept société à 2000 watts qui vise en particulier à réduire les consommations d'énergie d'un facteur 3 en Suisse et surtout à limiter les émissions de CO2 à peu près une tonne par habitant et par an. Si on essaye d'appliquer ce principe-là à l'échelle de l'éco-quartier de la Pontaise, je vous ai présenté ici plusieurs variantes. Je dirais légales, la SIA classique qui est effectivement la norme thermique de base, la nouvelle loi sur l'énergie vaudoise, le standard Minergie, le standard Minergie-P, et puis enfin la vision 2000 watts. Alors, il y a en particulier, je dirais, un enjeu crucial, deux enjeux cruciaux sur ces thématiques énergétiques pour l'éco-quartier, qui sont moins touchés d'habitude, en tout cas par des labels thermiques, ça semble évident, c'est l'électricité et la mobilité. Et on voit effectivement, entre la situation actuelle, donc la loi Énergie 2007 et puis la vision 2000 watts, l'effort qu'il faut fournir sur l'ensemble des quatre thématiques que sont la construction, la chaleur, l'électricité et la mobilité. Et pour finir, cette vision de 1000 watts, elle a effectivement, elle impose des cibles, clairement. Et quelque part, il y a un fromage ou un camembert qui se découpe en quatre parts égales entre les besoins énergétiques pour le chauffage, les matériaux, l'électricité et la mobilité. Alors, en voyant ce graphique, on se dit en particulier, la mobilité, ça semble un petit peu perdu d'avance. Faut savoir qu'en Suisse, de manière générale, où les statistiques donnent à peu près 37 km par habitant par jour, dont 30 km parcourus par jour en véhicule individuel. Alors, il y a une solution très simple déjà de diviser par deux ce facteur-là, c'est le covoiturage. C'est quelque chose qui est souvent oublié, mais plutôt que d'attendre effectivement des véhicules ou des moteurs à 1 litre, si aujourd'hui on est au volant d'un véhicule qui consomme 5 litres au 100, si on est deux dedans, ça fait 2,5 litres par kilomètre, enfin 2,5 litres au 100 et par personne. Donc l'idée sur ce projet-là, ça sera effectivement de favoriser la mobilité douce et puis, en attendant, effectivement, il y a d'ici 2010, je dirais, des promesses de construction de véhicules électriques. Il y a des solutions qui vont se développer, mais il y a déjà beaucoup à faire sur le changement des comportements. Bien. On va se passer de l'image. Je dirais, on a traité de façon un peu synthétique les aspects environnementaux. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on ne va peut-être pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On le fera au travers des questions, des notions de confort, etc. Ensuite, je dirais, l'idée principale de développement d'un écoquartier, c'est non pas de juxtaposer des maisons Minergie ou Minergie-P, mais l'enjeu, c'est bien d'essayer de créer une qualité de vie ou les conditions nécessaires à une qualité de vie par la suite. Typiquement, si on compare finalement les projets 3000 logements et le futur projet d'écoquartier, on se rend compte qu'à l'échelle d'un projet 3000 logements, donc de bâtiments, 2, 3 bâtiments, 60 logements, il est beaucoup plus compliqué de développer des actions pour favoriser soit la mixité sociale, soit dynamiser l'économie, etc. Par contre, lorsqu'on change d'échelle d'observation, lorsqu'on est à l'échelle d'un quartier, là, on peut d'un seul coup beaucoup plus prendre de mesures visant à améliorer ces aspects-là. Alors, sur ces aspects socio-économiques, il y a donc six priorités. L'idée, là encore, c'est, je dirais, de ne pas imposer les choses. On ne va pas forcer à mettre effectivement un commerce s'il est voué à la faillite. Mais disons qu'il faut réfléchir à ces aspects-là. On vient de visiter un quartier en Allemagne, à Tübingen. Ce qui était assez intéressant, c'est sur ces aspects socio-économiques, ils ont finalement détourné le problème en créant, une unité au sein de l'administration qui avait pour objectif d'auditionner des groupes de futurs propriétaires qui voulaient se constituer en coopérative et qui venaient présenter un projet de construction. Et puis, cette unité-là, au sein de l'administration, auditait l'ensemble de ces groupes de façon à sélectionner ceux qui étaient ou pas recevables et ensuite soumettait ce choix à la municipalité. Et c'est vrai que par ce système-là, de répondre plus à un besoin sur ces aspects socio-économiques, on arrive, je dirais, ils sont arrivés à une très grande diversité et puis à gérer au jour le jour, peut-être, la mixité du quartier, etc.